19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et oui, bonsoir chers amis auditeurs, nous faisons évidemment ce vendredi pour clore la semaine et vous savez, eh bien nous allons parler des sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui, mais également vous savez, au sommaire, ce qui a retenu notre attention avec quatre débatteurs influenceurs, mais surtout vous, vous qui nous écoutez partout en France, au 01 53 48 3000, vous êtes de plus en plus nombreux, paraît-il, en tout cas je vous en remercie infiniment, faites passer le message autour de vous, vous savez, les informés c'est une famille et une famille qui doit grandir, donc parlez-en au maximum. Alors on vous a concocté, eh bien tout simplement on reviendra sur le policier auteur qui a été mis en cause hein, dans la mort de Naël. La mère de l'adolescent, donc de Naël, appelle à une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux d'une grande manifestation ce dimanche sur la ville de Nanterre dans le 92. Voilà, on en parlera puisque, bien évidemment, vous le savez, c'est le sujet qui fait secouer les réseaux sociaux. Ensuite, nous parlerons de ce policier qui a été remis en liberté par un juge d'instruction de Nanterre. Nous reviendrons sur ce sujet, ce policier, avec cette cagnotte à la fois, mais également... pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une logique dans tout ça? Nous en parlerons. Nous parlerons aussi de la loi immigration. Ça tombe bien, le sénateur est avec nous. Le sénateur, M. Ahmed Lawedj, reviendra sur sa déclaration à la fois au Sénat dans l'hémicycle, mais également aussi, nous parlerons avec les débattants influenceurs sur cette proposition de loi qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'elle. Et puis ensuite, si on a le temps, Gérard Damanin répond à l'imam Abdelali Mamoun qu'on a reçu même sur ce même plateau dans Les Informés, qui a répondu à nos questions, qui est revenu d'ailleurs sur ce sujet concernant les actes antisémites. Et bien Gérard Damanin a répondu à l'imam Abdelali Mamoun, l'imam de la grande mosquée de Paris, je le rappelle, qui demandait où sont les 1200 actes antisémites recensés en France. Le 0153 48 3000, vous le savez, c'est votre numéro, c'est au standard, Solal vous accueille, les bras ouverts, vous venez, vous commentez l'actualité concernant bien évidemment celle de la maman. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, on va écouter la mère de Naël. Écoutez.
Bonsoir. Le 27 juin 2023, mon fils unique Naël a été tué par un policier. A-t-on le droit de tuer un enfant pour un refus d'entempérer? Non. Depuis 4 mois et demi, il était en détention provisoire. Après 4 demandes de remise en liberté, il est finalement relâché. Une véritable injustice. Comment la vie de mon fils peut-elle avoir si peu de valeur pour cette injustice? Quel message est envoyé? Un policier tue un enfant arabe ou noir, devient millionnaire et sort de prison, retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes. Moi, je ne retrouverai plus jamais mon fils. Mais je me battrai, je lâcherai rien pour mon fils. Dimanche 19 novembre, venez nombreux, nombreuses, pour nous soutenir à 15h sur la place Nelson Mandela, à Nantes.
À Nanterre, sur la place Nelson Mandela, c'était Mounia, la mère du jeune Naël, décédée, je le rappelle, le 27 juin dernier lors d'un contrôle de police. Elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux, elle s'est exprimée notamment sur la remise en liberté de ce policier. On va faire un tour de table. Tout d'abord, je voudrais accueillir d'abord les débatteurs influenceurs qui sont avec nous. Le face-à-face, c'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Il est avec nous, c'est un homme de parole, il s'est engagé, il était longtemps débatteur chez nous, le voici avec l'habit de sénateur, c'est monsieur Ahmed Lawedj. Ahmed Lawedj, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Plaisir de retrouver les studios ou pas du tout?
Bah écoutez, je suis chez moi.
C'est vrai que vous avez raison, vous êtes chez vous. Ça va, c'est le premier pas au Sénat?
Oui, bah ça fait maintenant un mois et une dizaine de jours qu'on est, on va dire, dans l'hémicycle, on essaie de défendre les intérêts... De nos compatriotes, et notamment le département dont j'ai été élu, la Seine-Saint-Denis.
Ouais. Et bien, monsieur le sénateur, bienvenue à vos côtés, c'est Amine Sahal, influenceur. Alors, lui, ça y est, maintenant, il est présent sur les réseaux sociaux. Ça va, monsieur l'influenceur?
C'est pas vrai, je suis pas uniquement sur les réseaux sociaux, je suis sur votre plateau aujourd'hui.
Non, au contraire, vous êtes actif.
Ça va très bien.
Moi, je trouve ça bien, vous faites débat, vous faites des sujets qui nous concernent d'actualité.
Bah, on essaye, même avec des vidéos de courte durée, d'aller chercher un petit peu les consciences de nos compatriotes. Ouais. Un peu comme le fait le sénateur, mais dans un rôle un peu différent. Ouais. Mais oui, l'idée, c'est quand même de de relever un peu l'actualité et de dire regardez là, il y a quelque chose qui se passe et il faut pas laisser passer, il faut rester vigilant.
Vous avez bien raison. Ibouba, le journaliste, comment ça va, monsieur Ibouba?
Très bien. Ouais. C'est un plaisir d'être là.
Partagez aussi.
Amine, avec le sénateur, avec
Philippe Ladji-Bouriaki, justement, que Philippe, je salue. Monsieur le conseiller régional, comment ça va?
Éco-porte-parole nationale de l'écologie au centre.
L'écologie.
Je vends de ma boutique, moi.
Ça va
très bien et je voudrais souhaiter à tous les sujets du royaume, à Sa Majesté ainsi qu'à nos amis, nos frères du peuple marocain, une belle fête de l'indépendance.
Ah oui, c'est vrai.
Oui. La légende le dit.
Ouais, c'est vrai. Allez, messieurs, vous savez quoi? Tout de suite, on va démarrer le premier sujet. Vous avez entendu la mère de Naël, Mounia. Monsieur le sénateur, Ahmed Lawedge, qu'est-ce que cela vous inspire à l'appel à une grande manifestation ce dimanche à la place Nelson Mandela à Nanterre? Un rassemblement.
Écoutez, moi, je peux pas me mettre
pour dénoncer l'injustice.
Je peux pas me mettre à la place d'avant, mais je pense qu'aujourd'hui, je veux pas commenter ce qui a été fait au niveau judiciaire, mais c'est vrai que je crois que c'est un peu trop tôt.
Le
procès n'a pas eu lieu. C'est un peu trop tôt par rapport à la mort de ce jeune homme qui s'est fait abattre par un policier. Je remets pas en cause moi tous les policiers. Il y a des policiers qui font leur travail correctement et ils sont là pour notre sécurité dans ce pays. Mais c'est vrai que vu la situation qui s'est passée à Nanterre lors de ce meurtre, j'appelle ça un meurtre, hein, parce que faut dire les mots comme on l'a vu tous ensemble devant nos téléviseurs. Voilà, je pense que la justice aurait dû faire attendre un petit peu avant de libérer ce policier. Parce que
4 mois après, hein. C'est 4 mois après,
c'est pas,
hein.
Voilà,
ça se passe. 4 mois de détention provisoire.
À l'inverse, si c'était un
policier. Est-ce qu'il y a une logique? Il y a une logique
à l'inverse,
tout ça,
si c'était un policier qui avait été tué, je pense que la personne serait encore en prison.
Ouais.
Là, c'est un jeune. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que, bon, c'était un jeune. Deux, c'est la situation aujourd'hui dans notre pays qui fait qu'on n'est pas encore en train de mettre en place des actions importantes dans les différents secteurs de nos territoires. Ah, j'en parlais l'autre fois sur une chaîne du Sénat où on a d'un revers de main retiré toutes les initiatives de lien qui se faisaient au niveau de la vie associative, au niveau de la police de proximité, au niveau, j'irais, du fait qu'il y ait des services publics dans les différents territoires pour accueillir nos concitoyens, nos concitoyens. Voilà, tout ça, ça fait une situation qui fait qu'à un moment donné, ça pète. Et là, ça a pété. Et c'est vrai que malheureusement, c'est un enfant qui a été tué. Et c'est pas le premier qui a été tué. Hein. Ouais. Je reviendrai sur les policiers.
Non, mais surtout, ce qu'elle dit la maman, monsieur le sénateur, c'est qu'elle dit comment la vie de mon fils peut-elle avoir si peu de valeur? Quel message on envoie? Elle a raison. C'est quel message finalement on envoie?
On fait
un tour de table aussi.
C'est ce que vous dites. Quel message?
Quel
c'est surtout ça le message. Et moi, ma crainte, c'est le message sur ce message-là qui a été fait par la justice, c'est que en gros, il y a deux poids, deux mesures.
Deux poids, deux mesures.
Voilà. Et c'est ça qui peut réenflammer l'étincelle qu'il y a eu lors des émeutes début juillet.
Aminsa, qu'est-ce que vous dites, vous, justement?
Écoutez, mon cher Adil, c'est un drame. Quelles que soient les circonstances, c'est un drame. Parce que quand un enfant meurt, parce que c'est un enfant, il faut le rappeler quand même, ce jeune homme avait 17 ans, et malgré, chacun le sait, les adolescents sont parfois aussi soumis à tout un tas de difficultés qui parfois les amènent à agir de la mauvaise manière. Mais moi, ce que je regrette surtout, c'est l'instrumentalisation politique qui a été faite de cette affaire, et notamment par l'extrême droite, on l'a vu. Et après, chacun le sait, et on est dans un état de droit, il y a le droit, il doit s'appliquer totalement, et ce policier, malgré ce qu'on peut en penser, ça reste injusticiable, il a un certain nombre de droits, et il faut rappeler quand même que la justice ne s'est pas encore prononcée aujourd'hui, il y a, malgré la remise en liberté, la justice ne s'est pas encore prononcée. Et puis, par ailleurs, je pense qu'il faut comprendre aussi l'émotion de cette maman. Vous imaginez?
Elle entend dans sa voix, là.
Elle voit quand même l'homme, parce que au-delà du policier, au-delà de l'uniforme, elle voit l'homme qui a abattu quasiment à bout portant son fils être libéré seulement 4 mois plus tard, avec cette image terrible de devenir millionnaire. Il faut imaginer ce que cela veut dire pour une maman.
C'est ça, vous avez raison. Qui va devenir millionnaire avec 1,6 million.
1,6 million euros. Ouais. Vous imaginez l'image terrible qui est envoyée, notamment à tous ces jeunes dans les quartiers qui, moi je veux pas minimiser, hein, évidemment, un refus d'obtempérer, c'est extrêmement grave, ça ne doit pas pouvoir se produire, mais je rappelle tout de même qu'un policier, c'est un membre des forces de l'ordre. Un membre des forces de l'ordre, il est là pour maintenir l'ordre. Ouais. Et il y a un certain nombre de règles qui doivent s'appliquer quand on veut maintenir l'ordre. Il y a ces policiers sont formés. Moi, j'écoutais il y a quelques jours un douanier qui expliquait que eux, les refus d'obtempérer, c'est quasi quotidien. Quasi quotidien. Et eux aussi sont armés. Eux aussi sont confrontés à ces difficultés, à des personnes qui prennent la fuite, parfois au péril de leur vie. Et bien pourtant, chez les douaniers, il n'y a pas eu d'hommes abattus ou de jeunes hommes abattus quasiment à bout portant. Donc ça doit quand même nous interroger sur les méthodes et sur les directives qui sont données notamment par le ministère de l'Intérieur.
Je sollicite nos auditeurs et je voudrais évidemment au 01 53 48 3000 les solliciter parce que je voudrais les entendre aussi. Si vous permettez, avant de donner la parole à Ibouba et à Philippe Nadjiboyaki, je voudrais juste accueillir direction Kremlin Bicêtre Mourad. Bonjour Mourad, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, on vous écoute.
Merci. J'appelais juste pour dire que pour moi, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer, la libération de cet homme, parce que effectivement, ça envoie un message vraiment très très grave pour nous, pour le peuple français, parce qu'on a l'impression, vous savez, quand c'est arrivé aux États-Unis, les Américains ont sorti le slogan qui dit « Black Lives Matter ». Ça veut dire que les Noirs, nos vies comptent également.
Exactement.
Et là, ici, c'est exactement ça qui est en train de se passer. On a l'impression parce que il n'y a pas que Naël, il y a Adama, il n'y a pas longtemps Eddie à qui ils ont fracassé le crâne, il y a le camp Bouna et Ziad sont morts. C'est-à-dire, la liste est longue et on a vraiment l'impression que quand il y a une victime, on ne regarde pas le crime, on regarde quelle est l'origine ou la couleur de la victime. Si c'est quelqu'un, comme elle l'a dit sa maman, un noir ou un arabe, ce n'est pas grave, ça ne compte pas, vous ne serez pas puni. Ouais. Et en plus de ne pas être puni, comme il l'a dit, votre chroniqueur, en plus de ça, il est récompensé. Et donc c'est un encouragement et c'est dans un continuum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça en réalité. Au-delà de ça, il y a aussi aujourd'hui, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des gens, des gilets jaunes qui ont été devant le parti de Emmanuel Macron à cause des 5 ans pour montrer les visages de ceux qui ont été borgnés. Et c'est vrai qu'ils expliquent que pas un seul d'entre eux a eu justice. Ça veut dire que même maintenant, ça va au-delà des Noirs et des Arabes. Il y a un sentiment d'injustice incroyable. On a l'impression que si on sort, on se fait abattre, ou on perd un œil, on perd une main, la police n'est pas punie. Et ça, c'est un signe très grave pour la démocratie, parce que tous les pays où ça a commencé comme ça, ça a très mal fini quand la police devient protégée. D'ailleurs, ils ont officiellement demandé à avoir une justice parallèle. Et donc, c'est des signes graves et les lanceurs d'alerte, et justement les sénateurs, les députés, c'est leur rôle de regarder ça et de d'arrêter ça avant que ça dégénère.
On interpelle, tiens, d'ailleurs, le sénateur Ahmed Lawedge, là, justement, sur ce dossier. Il dit, l'auditeur Morad, que c'est aussi le rôle des députés et des sénateurs. Hein.
Absolument. Mais complètement, mais moi je suis entièrement d'accord. La seule chose, c'est que malheureusement, dans ce pays, on a quand même un Sénat plutôt à droite, voire à l'extrême droite, qui est en train de se radicaliser. Bien sûr qu'il faut le dénoncer, bien sûr qu'il faut faire en sorte qu'à un moment donné, mais quand vous avez des gens qui viennent au Sénat ou à l'Assemblée nationale indiquer que les policiers ont le droit de tout faire, et comme le disait tout à l'heure, de mettre en place aussi des jugements qui se font directement sans voir ce qui s'est passé réellement, et de dire et de condamner certains et pas d'autres, ben voilà, le problème c'est que nous on le dénonce, mais on est peu nombreux à le dénoncer. Il faudrait que des gens comme moi ou d'autres qui sont élus aujourd'hui fassent preuve de pouvoir réellement faire en sorte de dire ce qui aujourd'hui ne va ou ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, moi je le dis, il faudrait même qu'il y ait une commission d'enquête qui soit ouverte par rapport à ça. Ce qui n'a pas été fait.
Absolument. Merci Mourad, on va marquer une merci Mourad pour votre témoignage. Merci. Et votre opinion. On va accueillir Auria tout à l'heure et Ibouba et Philippe Nadjiboyaki notamment. 0153 48 3000, bien sûr ça continue, cela vous accueille au standard. On se retrouve dans une poignée de minutes à peine. On fait une courte pause. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, 19h21 précisément, avec le sénateur Ahmed Lawadj, avec l'influenceur Aminsa, avec le journaliste Ibouba, et enfin le conseiller régional et le co-porte-parole d'Écologie au Centre, Philippe Nadjiboyaki, à qui je donne la parole dans une poignée de secondes. Tiens, Ibouba.
Tiens, ben voilà, merci cher auditeur d'être là.
La maman,
comme vous le savez très bien, oui, la maman
du jeune Naël.
La maman puis, de Naël qui aujourd'hui donc vit une page de vie quasi, qui a une page de vie quasiment dénaturée, hein, frappée par la mélancolie, la détresse et tout ce qui s'ensuit. Un décor qui est tout à fait dégueulasse pour notre pays. Je crois qu'il y a une graine qui est en train de se semer. Mmh. Et aujourd'hui, je ne sais pas quelle sera la récolte demain. Je crois qu'un peuple qui est tout à fait fustigé, et ça, on peut le dire haut et fort devant notre sénateur, à mon avis, je crois qu'il est là, très humble, qui sans doute portera cette voix donc devant le Sénat. Et je crois qu'il y a moins de le faire.
Vous lui mettez la pression là. Auditeur tout à l'heure, moral, maintenant
pas
vous.
Du tout, c'est pas de la pression, mais.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, monsieur le sénateur.
Ben voilà, il a tout compris, et je crois que bon, voilà.
Allez faire porter votre voix auprès du Sénat pour la maman Monia.
Exactement. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intrigue dans cette affaire-là, c'est de voir un policier qui sort donc pour aller faire la fête avec 1 600 000 de Français.
Oh, clochette, clochette. Oh là là là, attention au dérapage.
1 600 000, quand même pour une cagnotte, je crois que bon, voilà, on vous dit, monsieur, donc voilà, c'est la justice.
Mais la raison, c'est ce qu'elle dit, la mère de. Elle dit, un policier qui tue un enfant, un arabe ou un noir, devient millionnaire, sort de prison, retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes. C'est ce qu'elle dit.
Eh ben voilà. Donc voilà, après.
Et moi, je n'en retrouverai plus jamais mon fils.
Après quatre mois, donc, des détention, vous sortez donc et vous avez 1 600 000 d'euros et on vous dit, ben écoutez, mais je peux comprendre aussi la justice, vous savez, le droit est très mince, donc en quelque sorte, je ne suis pas un juriste parfait, mais à ma vision spontanée des choses, oui. Et comme plein de Français d'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'ils se sentent vraiment frustrés avec une page de vue dénaturée. Et c'est vraiment regrettable. À mon avis, je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir tout cela, essayer de réunir la société, de voir, de se comprendre, et de voir, de se poser des questions, à savoir quelle société sommes-nous en train de vivre en ce moment. Ce n'est pas cette France que nous avons connue.
Avant de retrouver Aurier de Paris et puis tous les autres au 01 53 48 3000, Philippe Nadjiboyaki.
Bon, merci Adil. Bon, j'espère en tout cas que je vais choquer personne sur mes propos. Évidemment, je comprends la douleur et la peine de cette maman. Je suis parent et on peut que comprendre que lorsque notre enfant perd la vie, on est bouleversé et dévasté. Maintenant, je voudrais de manière assez froide. Bon, en tout cas, c'est l'impression que ça va donner, mais en tant que ex-professionnel d'unité d'intervention, vous dire que le mot meurtre, tout à l'heure que le sénateur a dit, m'a un petit peu perturbé.
Pourquoi ?
Parce qu'un meurtre, c'est quelque chose qui est fait délibérément. Je pense que l'enquête le dira et la justice le dira, ça risque d'être qualifié en homicide involontaire. Et je m'explique. Ibouba, laisse-moi finir. Je parle juste de manière technique et professionnelle. L'erreur qui a été faite par ce policier, ça a été le positionnement du policier. Le positionnement dans lequel il a été fait, je vous demande de faire un flashback en arrière, c'est la hanche contre, enfin, la cuisse contre l'aile gauche, la hanche contre le capot et le coude contre la vitre. N'importe quel professionnel d'unité d'intervention, lorsque le véhicule démarre pour une raison X ou Y, même s'il va en linéaire tout droit, fait que vous êtes obligé de reculer dû à l'inertie. Et rappelez-vous son positionnement contre le trottoir qui est une butée, qui fait que involontairement le coup est parti. Le coup n'est pas volontaire, le tir n'est pas volontaire. Je tiens vraiment à le dire. Je sais que je le dis de manière froide. Il peut faire débat, mais je vous parle en tant que professionnel et technicien du maniement des armes. Je vous assure que le tir n'est pas volontaire. Maintenant, l'erreur de positionnement est réelle. Est-ce qu'il doit être sanctionné sur une erreur de positionnement? Il faut regarder tout le processus de formation.
Est-ce que ça vaut la vie d'un enfant?
Franchement, mais pas du tout.
C'est ma première interrogation. Ma deuxième interrogation, moi je pense qu'à un moment donné... Et je crois qu'aujourd'hui, avec la pression, et je peux l'entendre, vous avez beaucoup de policiers aujourd'hui qui ont une pression réelle,
énorme.
Avec un nombre d'heures qui font sans prendre de repos. Et ça, contre, c'est les autorités et l'État qui doit être responsable de tout ça. Et je pense que là-dessus, il peut y avoir des fois, c'est vrai, bavure. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand je dis c'est un meurtre, c'est pour mettre les choses quand même avec des noms. C'est-à-dire que le policier aurait pu, mais ça maintenant, il aurait pu, on peut le dire d'ici, il aurait pu tirer sur les pneus, il aurait pu tirer sur, ou même carrément laisser partir la voiture, de toutes les façons, mais pas aller tuer un enfant, parce que un policier, quand il voit un enfant qui est jeune dans une voiture, en plus de ça, bon, il le sait parce que il connaît un petit peu quand même l'environnement. Il voit souvent des jeunes qui sont sans permis et qui utilisent les véhicules dans les différents secteurs des quartiers dont il dépend, parce que maintenant c'est vrai qu'il connaissait pas le quartier parce qu'il venait d'ailleurs.
Ouais, c'est départemental.
Mais quand même, les policiers connaissent tout.
Mon propos, c'est pour ça que j'ai dit c'est de manière froide et en termes techniques. Je veux essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Non, faut revenir là-dessus sur la qualification, et je pense que je vous dis, in fine, et ça risque de choquer des gens, ça sera en inventaire. Maintenant, monsieur le sénateur a dit un point essentiel. Et là, on revient sur la base et la formation. Comment faut-il intervenir ? Je peux vous assurer que lorsque vous êtes dans une situation de stress total sur une course-poursuite, vous ne savez pas à qui vous avez affaire à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont armés? Est-ce qu'ils sont pas armés? Est-ce que c'est un go-fast? Est-ce que dans une situation de stress où l'adrénaline est à son paroxysme, il y a des choses, il y a des réactions innaturelles. Et autant sur les collègues, mais c'est une déformation, ceux du GIGN, du RAID, de la BRI, du GIPN sont ultra entraînés, et même quand vous êtes ultra entraînés, vous restituez 70% de ce que vous avez pris à l'entraînement. Eux ne sont quasiment jamais entraînés, donc s'ils reproduisent 5 ou 10% de ce qu'ils ont pris à l'entraînement, c'est extraordinaire. C'est pour ça que j'essaie pas d'excuser ou d'édouaner ou trouver des circonstances atténuantes. J'explique que dans une situation de stress, vous avez des gens, lorsqu'ils subissent une agression par exemple, sont complètement tétanisés, et d'autres peuvent gérer la situation parce qu'ils sont entraînés à ça.
Certains vous diront, et qu'est-ce que vous faites de tous les autres? Qu'est-ce que vous faites de tous les autres? Mourad, tout à l'heure, l'auditeur, souvenez-vous, vous, il était là il y a quelques minutes, il disait mais qu'est-ce qu'on dit alors de tous les autres qui ont connu la mort évidemment dans des circonstances différentes chacun d'entre eux. Abinsa.
Enfin, il y a deux choses importantes qui ont été dites à la fois par monsieur le sénateur et monsieur le conseiller régional, c'est il y a la question des moyens, de la formation des policiers qui à mon avis est vraiment totalement dégradée dans ce pays. Il y a un manque de moyens criant et les policiers le disent, la majorité des policiers souffrent de ça. J'entends aussi ce que dit le conseiller régional monsieur Philippe Bouriaki qui nous explique que oui, parfois dans des situations de stress il peut y avoir des réactions qui sont incontrôlées ou en tout cas qui nous, peuvent nous amener à faire ou avoir des gestes qui ne sont pas les bons, mais il faut quand même rappeler une chose, on n'a pas tous les éléments dans cette affaire. D'abord, on ne sait pas si le véhicule a démarré avant qu'il y ait ce fameux coup de crosse, puisque on parle d'un coup de crosse qui aurait potentiellement déclenché ça. C'est le témoignage du monsieur qui était, enfin du jeune homme qui était à côté de Naël. Oui. Donc peut-être que il n'y a pas eu refus d'obtempérer. En fait, c'est peut-être que le départ du véhicule est lié à ce coup de crosse. Il y a aussi les fameux les enregistrements où il y aurait eu des mots qui auraient été prononcés par les policiers. Alors je mets ça au conditionnel, puisque encore une fois on n'a pas tous les éléments, mais on aurait potentiellement entendu que le policier aurait dit « mets-lui en une », entre guillemets.
Surtout on m'interpelle donc, sur un commentaire qui dit « un policier a-t-il le droit de braquer un individu qui ne présente aucun danger pour lui ?»
Voilà, il n'y a pas d'armes visiblement dans le véhicule. Alors, puis dernière chose, je termine parce que...
Ce sont des questions tout simplement qui...
Juste je termine là-dessus. Il y a ensuite un troisième élément qui est essentiel, c'est qu'on a des déclarations contradictoires des policiers. Des policiers et notamment des enquêteurs qui sont arrivés après sur les constatations, etc. Donc tout ça quand même pose question. Alors, et j'espère que la justice pourra faire toute la lumière sur cette affaire et que
donner une partie des réponses
et qu'ensuite on pourra rendre justice de la manière la plus équitable possible.
On est d'accord. Alors je vais répondre aux deux questions sur les contradictions et sur les versions qui peuvent différer. Lorsque vous êtes, je prends un exemple. Je donne un exemple, une image pour essayer de juxtaposer
les
situations.
On a des auditeurs, hein, je rappelle.
Bien sûr, non, on y arrive. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous êtes dans une situation de stress, vous n'avez pas toutes vos facultés et elles sont dégradées et elles peuvent être altérées par rapport au temps et par rapport aux événements et par rapport au stress supplémentaire lorsque vous vous retrouvez en garde à vue, que vous ne comprenez pas que tout s'effondre, etc. J'essaie pas d'excuser. Hein. Je vous donne des éléments concrets si vous ne voulez pas des éléments techniques.
On est en train
concrets.
De parler de la mort d'un enfant là.
Absolument.
C'est ça. Attendez.
Si on va plus loin. Mais non, mais attendez.
Il faut remettre le contexte.
Non, mais la mort d'un enfant.
La mort d'un enfant. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça.
Alors, je vais être encore plus brutal.
Aussi.
Non, je vais être plus brutal. Je vais être plus brutal.
Allez-y.
Si l'enfant n'était pas non titulaire d'un permis et non dans un véhicule, tout ça ne serait pas arrivé. Mais ça, c'est de manière assez brutale et assez froid. Et je ne veux pas être ni brutal ni froid. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous donne des éléments techniques sur expliquer ce qui a pu arriver.
Il y a les auditeurs qui nous attendent. Ouais,
écoutez, je crois bien que Monsieur Lulu, Philippe, je crois qu'il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Il faut avoir une lecture très brève de la situation, en fait. C'est ce qui se passe, en fait. Le citoyen lambda n'a pas le temps de voir des questions techniques ou pas techniques. Il y a mort d'homme, c'est ce qui est important. Et de quelle façon, en fait, en quelque sorte. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une libération. Alors, les gens, ils sont frustrés parce que le citoyen lambda n'a pas le temps de cogiter, de penser, de dire, de voir donc cet angle technique ou autre. Ce qu'il verra, c'est justement les faits et les gestes qui se sont passés autour de cette actualité qui est là.
Mais justement, nous, on est là pour apporter des explications et des lumières au citoyen lambda. Mais le citoyen lambda s'est exprimé par rapport aux deux cagnottes. Ils sont exprimés.
Ce que vous dites, c'est trop technique. Nous savons qu'aujourd'hui, les policiers, peut-être sûrement que.
Ils manquent d'entraînement.
D'entraînement, allez, ils font plus réellement. Que ce qu'ils font, oui. Ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a mort d'homme. Ouais. Et c'est un enfant.
S'il vous plaît, si vous permettez, je voudrais juste solliciter un peu nos auditeurs. Ils sont nombreux à nous appeler. 0153483000.
Il n'y a pas de problème.
Aurilla, bonsoir, vous nous appelez de Paris. Bonsoir, Aurilla.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, bienvenue, monsieur. On vous écoute.
Eh bien, moi, vraiment, je suis sidérée. Hein.
Ouais,
quelqu'un qui tue un enfant, on le libère. On le libère. Pourquoi? Déjà, et pourquoi on le libère? Hein?
Oui.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Parce qu'il y a la justice, madame.
Il a sauvé la France de l'inflation pour le sortir de. Il a tué un enfant, bon sang. Il a tué un enfant.
C'est ce que je vous disais tout de suite.
Et un enfant, pour le mettre au monde, déjà, il faut 9 mois.
Oui.
Hein? Et après, il faut l'élever. Jusqu'à ses 2 ans, jusqu'à ses 6 ans, jusqu'à ce qu'il devienne un homme. On le protège toujours. Bon. Il a fait une erreur, il a fait des erreurs peut-être, mais ça reste un enfant, on ne tire pas sur quelqu'un.
La ça n'arrive pas la mort, surtout.
J'entendais beaucoup sur la police française.
C'est tout, hein. c'est fait.
Que c'est une police qui est entraînée, qui connaît très bien son travail. Franchement, celui-là, ce n'est pas un policier. Celui-là, c'est un marchand de légumes.
Non, on ne peut pas dire ça.
Marchand de légumes, non, mais
c'est aucun problème. C'est un état de service. Non,
monsieur, excusez-moi, mais un chat, il faut l'appeler un chat.
Oui, mais très bien.
Si tu es un enfant, je ne pardonne pas.
Non, madame, je suis pas là pour dédouaner le tir et excuser la mort d'un enfant. Mais je vous rappellerai que quelques mois plus tôt, la gendarme Magali, j'ai oublié son nom, a été traînée et morte lors d'un refus d'obtempérer. 3 mois après, son meurtrier est en liberté. La justice, lorsqu'on vous met en détention provisoire avant votre jugement, c'est pour plusieurs faits. Un, pour ne pas que vous puissiez appliquer des pressions aux témoins. Deux, pour ne pas que vous puissiez rentrer en contact avec vos collègues pour pouvoir vous mettre d'accord. Et trois, ne pas vous soustraire à la justice.
Je lance la pause. Aurilla, merci d'être intervenu. Aurilla, on va continuer d'en parler. Vous soulevez des vraies interrogations. Merci Aurilla, bonne soirée à vous. Il y a Karim de Pantin-Jalid du 93, Mokhtar aussi notamment. 0153483000, on se retrouve dans une poignée de minutes. Ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h40, c'est 19h40 et je peux vous dire que le débat continue, y compris pendant la pause avec le sénateur Ahmed Lawedge, avec l'influenceur Amin Saha, avec le journaliste Ibouba et enfin avec le conseiller régional et mais également le porte-parole d'écologie au centre, Philippe Nadji Bouariaki. Messieurs, je voudrais qu'on avance et qu'on parle de ce second sujet, c'est celui de la loi immigration. La loi immigration votée au Sénat avec une aberration ou pas politique, juridique, oui ou non. C'est une question qui va permettre d'expulser. Alors, on parle de délinquants, on parle de. Et puis des autres. Hein. Est-ce que le Sénat est plus radical que Macron lui-même, que le chef de l'État, bien sûr. Et puis, je voudrais entendre, lancer le sujet. On s'attend bien, le sénateur Ahmed Lawadj est avec nous, donc on va en parler avec lui et puis faire un tour de table, mais également aussi accueillir les auditeurs au 01 53 48 3000. Monsieur le sénateur, ça tombe bien, vous avez pris la parole, vous. Vous avez parlé de la loi.
J'ai pas pris la parole surtout, mais j'ai pris surtout la parole sur le fait que les sénateurs LR voulaient supprimer l'AME.
Eh ben, ça tombe bien.
Pour moi,
ça tombe bien, on a été chercher.
Une aberration.
On a été chercher votre intervention au Sénat. Ça se passait donc il y a quelques jours encore. Écoutons.
Monsieur Lawadj.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je vais prendre le risque de redire les points que mes collègues ont déjà défendus avant moi, mais ce sujet est trop essentiel. Nous pouvons le dire très clairement et très simplement, nous sommes contre la suppression de l'AME. Je vais reprendre ce qui a déjà été défendu lors de la discussion générale. Ce dispositif n'engendre pas d'appel d'air, d'une part. Toutes les personnes éligibles à l'AME n'en bénéficient pas réellement. D'autre part, moins de 10% des étrangers en situation irrégulière évoquent la santé comme un motif de venue en France. Ensuite, économiquement et sanitairement, j'attends qu'il me soit présenté un scénario crédible et sans drame sanitaire dans lequel notre pays ne soignerait plus une partie de la population.
Extrait de la déclaration, de votre déclaration au sein de l'hémicycle du Sénat. C'était houleux, c'était... on va dire que... Alors on connaît, le Sénat est plutôt à droite. Mais là, que faut-il comprendre ?
Ah ben, c'est clair que les sénateurs ont durci plus que le texte qui était prévu à la base. Par le gouvernement.
Pourquoi ?
Parce que ils ont essayé de mettre en place la course à l'échalote pour être, on va dire, encore meilleur que le Rassemblement national. Et ça, les gens, faut pas les prendre pour des imbéciles. Entre la copie et l'original, on préfère l'original. Donc plus ils courent après le Front National, plus ils sont en train de le mettre au pouvoir.
Vous êtes minoritaire, vous.
On est minoritaire, bien sûr qu'on est, on est minoritaire. Sauf qu'on n'a pas laissé passer ce genre de choses et qu'on a voté contre. Moi, j'ai voté avec mon groupe RDSE contre ce projet de loi. On peut pas laisser ce catalogue d'horreurs qui a été présenté par les sénateurs LR sur la fin du droit du sol, par exemple, sur la suppression des allocations familiales, des sociales et familiales, durcissement du regroupement familial, la suppression de l'AME. Voilà, tout ça fait qu'à un moment donné... Alors, moi, je montre du doigt les sénateurs LR, parce que quand j'entends ici ou là qu'eux-mêmes font des demandes pour régulariser leur nourrice ou leur femme de ménage. Mmh. Or, quand ils viennent au Sénat, ils viennent faire leur show. Et ça, moi, ça m'inquiète un petit peu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand je prends, moi, le RERB, parce que j'habite Aulnay-sous-Bois pour venir au Sénat, vous savez, le matin, vous avez le peuple français originaire de tous les pays. Absolument. Qui prend ce train-là et qui va travailler pour ce pays. Absolument. En matière dans le bâtiment, que ça soit dans l'environnement, que ça soit dans les grands centres commerciaux. Voilà, vous avez des gens qui viennent et qui travaillent. Les gens ici, les immigrés qui viennent sont là pour travailler. Par contre, moi je dis, il faut durcir bien sûr pour les délinquants qui viennent ici faire leur marché, cela bien sûr qu'il faut les reconduire à la frontière. Il faut à un moment donné deux poids deux mesures. Vous avez une immigration ici qui est là depuis 50 ans, qui existe, et d'ailleurs la France elle a toujours fait appel à l'immigration, c'est pas d'aujourd'hui, d'accord. Les routes, ils ont pas été construites comme ça, les infrastructures, ils ont pas été construites comme ça, les hôpitaux, ils ont pas été construits comme ça. Quand on voit aussi dans les hôpitaux avec le désert médical qu'on a beaucoup de gens issus de l'immigration, qui sont immigrés, qui viennent ici, qui sont docteurs, heureusement qu'on les a.
Amine, ça, justement, aberration ou pas aberration, cette loi votée au Sénat ?
Bien sûr.
Loi immigration.
Monsieur le sénateur l'a dit, c'est absolument une aberration de supprimer l'AME. Et moi, je tiens à saluer la position d'Ahmed Lawadj qui s'est opposé fermement avec son groupe à la suppression de l'AME. Il y a eu d'autres groupes qui se sont évidemment opposés. Mais au-delà de l'AME, parce que l'AME, c'est un symbole, tout le monde connaît, et heureusement qu'il y a l'AME, et on a connu la crise sanitaire, notamment avec le Covid. Imaginez-vous demain si on arrêtait de soigner ces milliers de gens.
Oui.
Quel est le désastre derrière ? Parce que la maladie, elle s'arrête pas, hein. la contamination, elle s'arrête pas. Donc si on soigne pas les gens, si on soigne pas les gens, eh ben on prend le risque de rendre malade tout le monde. Et derrière, c'est le coût, c'est plus un milliard d'euros. Le coût, c'est des dizaines de milliards d'euros. Et on l'a vu avec le Covid. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
c'est ce qu'a dit le sénateur.
Plus généralement sur la loi immigration, il y a pas de problème d'immigration en France. Oui, il y a des problèmes d'insécurité qui peuvent être ponctuellement liés à une certaine immigration. Et monsieur le sénateur l'a dit, il faut être ferme avec ceux qui commettent des délits, avec ceux qui viennent commettre, qui viennent foutre le désordre chez nous. Il faut être ferme avec cela. Sauf qu'ils ne sont pas la majorité de ceux qui émigrent. La plupart de ceux qui émigrent et qui viennent notamment pour faire un certain nombre de métiers que personne ne veut faire dans ce pays. On l'a dit, dans le bâtiment, dans la restauration, dans l'entretien, etc. Tout ça, ce sont des métiers sur lesquels on n'arrive pas à trouver la main d'œuvre. Et heureusement qu'on a l'immigration. Et au-delà de ces métiers peu qualifiés, il y a aussi, on l'a dit tout à l'heure, on a du mal à former les médecins parce que on s'est doté de règles avec le numerus clausus, notamment sur les médecins, et on a empêché finalement la formation des médecins. Et enfin, je le disais, il n'y a pas de problème avec l'immigration parce que quand on se compare avec les autres pays d'Europe, vous savez, il y a 12% d'étrangers en France. 12%. D'accord. Quand on regarde les pays voisins, l'Allemagne c'est 16%, les Belges c'est 14%. Donc on n'a pas de leçon à donner aux autres en matière d'immigration. La réalité c'est qu'on a dans ce pays une extrême droite qui a le vent en poupe parce qu'elle est poussée notamment par un certain nombre de médias, il faut le dire. Et puis vous avez, et on le disait tout à l'heure, le Sénat s'est droitisé. Pourquoi il s'est droitisé? Parce qu'il a besoin de se distinguer. On le sait, les Républicains sont aujourd'hui en recherche d'une voie politique parce qu'ils sont pris en tenaille à la fois d'un côté avec le Rassemblement National qui occupe l'espace médiatique, de l'autre la Macronie qui dirige notre pays, et les Républicains qui sont pris en tenaille là-dedans et qui ont besoin d'exister, qui veulent aller plus loin que le texte proposé par Gérald Darmanin pour montrer que eux sont de véritables, qui sont véritablement fermes avec l'immigration. Et donc, je crois que on est finalement en train de s'inquiéter d'un sujet qui en réalité n'en est pas un.
N'en est pas un, monsieur le sénateur.
Je voulais rajouter quelque chose. Quand le texte était projet de loi immigration intégration. Dans ce pays, faut me dire depuis combien de temps on intègre les immigrés. La politique immigratoire dans ce pays n'a jamais été faite. D'accord.
Jamais.
Regardez l'Allemagne. Elle a accueilli plus de 100 000 Syriens. Ils apprennent l'allemand. Ils sont insérés dans la vie active. Ils participent à la vie locale. Et ça fonctionne très bien. Sauf qu'ici, on a toujours fait en sorte de laisser de côté ce genre de choses. Et bien, à un moment donné, ça vous pète à la gueule. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut que la France soit toujours le pays qui a toujours accueilli une immigration. Et donc, bien sûr, faire en sorte que ces gens-là qui travaillent soient régularisés. Et c'est ce que je demande, moi, pour des gens qui sont là depuis un certain temps, qui travaillent sur 2, 3 ans, 4 ans, et qui sont en plus salariés de grands groupes.
Oui,
moi, je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui. La Seine-Saint-Denis aujourd'hui, allez voir dans les jeux, la construction des sites, et vous allez voir qui travaillent.
C'est vrai, ouais, effectivement. Enfin, je dis c'est vrai. Je constate. Et Bouba, et ensuite Philippe Ndjibouyaki.
Je crois qu'il y a des associations qui se sont exprimées là-dessus. Mais moi, je suis déboussolé. Quasiment déboussolé.
Pourquoi, monsieur Ibouba ?
Je ne comprends pas du tout. Quand c'est le Sénat qui s'exprime comme ça, mais c'est une horreur, réellement. Des caciques, des responsables.
Des sages.
Des sages, je dirais bien. Merci beaucoup, Yannis. Mais des sages. Nous sommes dans quel pays ? Mais nous sommes en France. Est-ce que ces sages-là ne se connaissent pas ? Où ils ne savent pas l'histoire de ce pays où ils vivent. Mais c'est quoi la France ? C'est un pays d'immigration. C'est un pays d'immigrés. Les immigrés, on ne parle pas d'immigrés économiques. On oublie toujours de parler de cela. Mais allez-y dans les préfectures le matin. Vous allez voir cette foule-là qui est là-bas. Ceux qui retirent leur carte de séjour, ils payent 350 euros par personne. Ou 90 plus que. Et il y a combien de personnes par jour ? Mais personne n'en parle. C'est pas aujourd'hui parce qu'on parle de politique ou que parce que justement Marine Le Pen veut s'imposer et que les gens aujourd'hui sont quasiment déboussolés. Ils ont une page de vie quasiment dénaturée et ils veulent s'amplifier à Marine Le Pen.
Finalement, est-ce qu'on est en train de préparer le terrain à Marine Le Pen ?
Excuse-moi, mais le droit de vote des étrangers, pourquoi ils n'en parlent pas ? Mais c'est une solution aussi à ce problème-là.
Philippe Nadjiboye,
vous disiez finalement, est-ce qu'on n'est pas en train
mais le Front National, le Front National,
on peut régler le problème du Front National du Rassemblement National. Philippe Nadjiboye.
La droite au Sénat est en train de faire la courte échelle au Rassemblement National, tout simplement. Et je vais faire très court, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit. Monsieur le sénateur a bien résumé la situation.
Absolument.
Il faut reconduire à la frontière tous ceux qui nous posent des problèmes. Ouais. Et je parle à nous en priorité, puisque nous sommes des dommages collatéraux à celles et ceux qui sont français, qui veulent vivre en France, qui sont complètement dans le paysage et patrimoine de la France. Et donc nous aussi, nous devons être et d'ailleurs la gauche l'a souvent abandonné, ce terrain de la sécurité ou du sécuritaire. Mais par contre, supprimer l'AME, c'est quand on est stupide. On voit qu'il y a à nouveau des regains de tuberculose. Monsieur le sénateur a tout mon soutien sur ce sujet.
Aminsa, très court s'il vous plaît.
Très brièvement, je voudrais rappeler que la crise migratoire, elle n'a pas commencé. Pourquoi elle n'a pas commencé? Parce que on s'inquiète des flux migratoires, mais dans quelques années, notamment en 2050, avec la crise climatique, ce sont des centaines de millions de gens qui vont se déplacer à travers la planète. Et ce jour-là, ce sera un véritable problème. Il vaut mieux se préparer maintenant à accueillir. Parce que jusqu'ici, depuis 30-40 ans, on ne s'est jamais doté d'une véritable politique d'immigration pour gérer justement ces flux.
Et les Français ne font pas d'enfants, il faut le dire. 40% de ces enfants qui sont là, c'est les enfants d'immigrés.
Il faut
une éducation pour ces enfants qui sont là et qui doivent intégrer la France.
Vous parlez démographiquement, effectivement, qu'il y a moins de bébés, c'est ça que vous voulez dire?
Bien sûr.
C'est ça. Monsieur le sénateur, vous reviendrez
aujourd'hui. Avec plaisir.
Oui, merci. En tout cas, plaisir partagé.
Avec plaisir.
À monsieur Ahmed Lawedj, monsieur le sénateur. Beaucoup. Merci à notre influenceur, Amin Sarr. Ça vous fait rire, ça?
Ouais, ça me fait rire. Je suis plus influencé qu'influenceur.
C'est pas mal.
Et Bouba, le journaliste, à bientôt.
À bientôt.
Au plaisir. Hein.
Au plaisir.
Le conseil régional, à bientôt.
À bientôt.
Et le porte-parole aussi d'écologie au centre.
Et Philippe Ndjiboriaki. Ancien spécialiste des interventions.
Ah oui, c'est vrai. Ah, exactement, c'est vrai.
Donc j'en parle de manière technique et je m'excuse si j'ai pu heurter des gens, mais c'est un technicien qui vous a parlé.
Merci aux nombreux auditeurs qui nous ont appelés. Merci et évidemment, j'ai pas pu donner la parole à tout le monde, vous le savez, il faudrait sinon 4 heures d'émission. Hein. 4 heures d'émission et encore. Merci à vous. Allez, le programme continue, vous le savez, c'est Time Sport avec Bilal Nedman, Vanessa, 21h-23h. Les programmes continuent tous week-end. Je vous le dis, BFM continue, bien sûr, soyez fidèles. Paraît-il que les audiences vont être bonnes. Donc, écoutez, on le souhaite, on croise des doigts. Merci Solal à la réalisation. À lundi, avec autant de plaisir. Mais surtout, qu'est-ce qu'on dit?
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.